Exploratrice. Avec Mel Trudel et Camille. Radio X.
Bonsoir, bonsoir, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue dans la 20e émission de Exploratrice.
Oui, lendemain de partie de sondage.
Incroyable, lendemain de partie de sondage. On est bien présents. Vous êtes à l'écoute, vous êtes à l'écoute. On arrive deuxième après Jordan.
Oui, mais c'est fun que la bataille se fasse dans le même groupe propriétaire. Oui. C'est ça, exactement. Fait que moi, j'étais super contente hier pour Jordan. On a eu un super
vraiment.
Beau souper. Merci encore au Cécile Ramon de nous avoir accueillis. On a pris un verre entre collègues. On a jasé en masse. On a dansé un peu. Il y avait un groupe de cover band.
BA Band.
Oui, ça fait du bien de se revoir. Puis la température était idéale pour ceux qui n'ont pas voulu se coller hier parce qu'il faisait trop chaud. Ça allait être gâté ce soir avec la température.
Hey, ils vendent-tu?
Oui, c'est justement, incroyable. Restez en dedans puis amusez-vous.
Tabarouette, moi et notre invité, là, on est habillés en été, nous autres, là. Quelle erreur. Camille, ce soir, on a avec nous un collaborateur bien présent dans l'émission de la Sexploratrice depuis le début.
Oui, bien présent sur l'antenne aussi. C'est pas la seule fois qu'on va l'avoir entendu cette semaine.
Oui, je l'ai présenté à Robbie et Robbie l'a tout de suite adopté. Il m'a demandé la permission. J'ai dit oui. Par contre, je suis la priorité. Donc, on se l'arrache ici à l'antenne, Dr. Paul Simard. Bonsoir.
Bonsoir. Psychologue, oublie pas.
Psychologue, excusez-moi, Dr. Paul Simard. Psychologue, oui. Donc, ce soir, Dr. Simard, on va faire suite au sondage qu'on a publié en ligne, en fait, via nos réseaux, concernant différents thèmes liés à la sexualité. On va parler des différents types de comportements sexuels selon la personnalité et les troubles de personnalité des gens. Mm-hmm. Finalement, on va aborder toutes sortes de sujets ce soir en lien avec la psychologie et la sexualité. Ça va être super intéressant, comme toujours.
Il y en a un qui est un moteur au rapprochement, veut pas. Tu sais, quand t'es pas dans un état optimal psychologique, il va avoir des traumatismes, des craintes, manque d'estime. Ça peut être un frein à beaucoup de choses.
Hein. Absolument. Puis je trouve que... En fait, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Dr. Simard, mais de connaître le langage amoureux de notre partenaire... Et le langage érotique même, c'est quand même quelque chose d'important.
C'est une belle manière de synchroniser avec l'autre. Ça. Quand on connaît ses besoins et qu'on connaît les nôtres, là, on va se promener de l'un à l'autre. Là. Puis progressivement, on fait comme une espèce de danse nuptiale qui crée plus d'intimité. On synchronise comme le poste de radio 98.1 que vous avez syntonisé. Et là, on entend la bonne information.
Oui.
Donc, c'est progressif, puis ça aide beaucoup de connaître les langages de l'amour puis les schémas sexuels.
Est-ce qu'on pourrait peut-être les décrire, les 5 langages de l'amour?
Oui, bien moi, je trouve que c'est une vieille théorie, fait que j'en ai rajouté, puis je l'ai réordonnancé un peu.
Ben allons-y.
Donc, on pourrait dire que moi, je les classe du plus objectif au plus subjectif, donc au plus loin puis au plus intime. Mais ça ne veut pas dire du pire au meilleur. Là. Chaque forme d'amour est bonne. Donc, il y a des gens qui communiquent l'amour à travers les cadeaux matériels.
Oui, oui.
Il y en a d'autres qui communiquent l'amour à travers les services qui se rendent les uns les autres. Il y en a d'autres qui communiquent l'amour à travers...
Les paroles valorisantes.
Ouais, non, pas tout de suite. L'accessibilité potentielle.
Oui.
Mettons, l'autre, il viraille dans la maison ou dans la cour, puis c'est potentiel, je peux le compter dessus, je peux le texter à n'importe quel moment. Ça, c'est l'accessibilité potentielle.
Ah.
L'autre d'après, c'est les paroles valorisantes. T'sais, quand on se comprend, puis qu'on se dit des beaux mots... Là. Et l'autre forme d'amour, ça serait le toucher. Parce qu'on ne touche pas nos amis de la même manière qu'on touche nos partenaires amoureux et sexuels. Normalement.
Il y en a qui disent qu'on était amis avant, mais c'est ça. Maintenant, on devient un peu plus taponneux.
Oui.
Plus bas.
Donc, en un mot chaque, on pourrait les décrire comme étant cadeau, service, accessibilité, communication, toucher. Lesquels sont vos deux préférés? Est la question que je demande en thérapie de couple bien souvent là, pour que les gens y apprennent à se connaître. Parce qu'ils n'ont pas forcément les deux mêmes en priorité.
Ben non, puis c'est ça qui peut créer des malentendus parfois. On peut penser que notre amoureux nous aime un peu moins, alors que c'est juste une forme de langage amoureux qui est différent. Puis, tu vois, je connais quelqu'un actuellement qui débute une relation, puis elle est souvent déçue de certaines attentes qu'elle se crée finalement envers l'autre. T'sais, par exemple, pour son anniversaire, elle était déçue qu'il n'organise pas quelque chose de spécial. Et de...
Mais ça fait combien de temps qu'ils se voient?
Ça fait 2 mois environ.
OK. L'année prochaine, ça va être encore plus gros. On va l'encourager comme ça.
Oui, mais
en même temps... commence, c'est tout nouveau.
Mais peut-être que pour cette personne-là, de simplement souhaiter bonne fête puis de sortir la veille, pour lui, c'était quand même... Peut-être juste une façon de souligner son anniversaire sans être obligé de le ressouligner le lendemain, par exemple.
Exact. Ça fait partie des règles non dites. Puis là, il y a des gens qui vont se dire, peut-être que la personne en question va dire, « Bien, il me semble que c'est évident qu'il faut que tu leur dises à ma fête. »
Oui, c'est ça.
Mais c'est...
La
non.
journée de ma fête, c'est aujourd'hui,
non,
c'était pas
c'est
hier.
Non, c'est pas évident.
En passant, c'était la fête de Mélanie samedi passé. Et on s'est quittés, j'ai souhaité un bon week-end. Elle n'a rien dit de la game. Fait que toi, tu fais partie des gens qui c'est comme, « Ah, oh, c'est pas si important que ça, je vais vous déranger si je vous dis que c'est ma fête. » Fait que bonne
non,
fête en
mais
retard,
c'est parce que, hey, pour vrai, voyons. J'ai perdu le contrôle. Là, ça a pas de bon sens. J'ai reçu tellement de messages en Messenger. D'ailleurs, je m'excuse sincèrement à tout le monde qui m'avait écrit, à qui j'ai pas eu le temps de répondre. Et là, j'ai fait un beau message général pour remercier tout le monde. Je me suis ramassée avec 200 autres commentaires en dessous. Ça n'a juste aucun sacré bon sens. Merci, merci, merci. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Mais j'ai vécu une fête, mon ami. Oh! De rêve. J'allais à Fuego Fuego à Montréal.
Oui.
Et j'étais dans la section média, donc j'étais quand même très heureuse parce que je ne suis pas une fille qui aime vraiment les festivals. Et on a terminé ça au Club Bell.
Oh non.
Moi et ma copine. Ouais. Mais là, OK, j'aimerais qu'on cesse de dire que c'est des clubs échangistes. Parce que dans les clubs comme le Club Elle, comme le Club La Rumeur, comme le Club Luxuria, ce sont des clubs libertins.
Exact.
OK, ce ne sont pas que des échangistes qui y vont.
Exact.
Et quand je suis allée, moi, je n'étais pas du tout... Je filais un peu sauvage. J'avais envie d'être dans ma bulle, de rencontrer des gens, mais je n'avais pas envie d'aller plus loin que ça. Fait que je me suis installée dans la salle de conférence à admirer le spectacle qui se déroulait devant moi.
Mais c'est un sujet très intéressant, ça, parce que j'ai écouté d'ailleurs un épisode de podcast d'une animatrice sur le sujet hier.
Oui.
Donc, tu as un épisode complet sur le sujet.
OK. Moi, ça?
Oui.
Ah, oh, ben oui, avec Mathéo et André,
oui,
les propriétaires,
ça.
Justement, du
Club
Bell.
Ben oui.
Mais ils m'ont tellement bien accueilli. Là, j'ai été accueillie comme une reine, là, ce soir-là. C'est fou.
Ben, c'était ta fête.
C'était ma fête.
Mais ouvrir l'accès à tous ces sujets-là qui sont un peu tabous, là, c'est pas évident. Hein. Ça demande une certaine forme d'audace, si je me trompe pas. Là.
Ben, je pense que c'est de moins en moins tabou et la société est prête à en entendre parler. On a compris que... c'est plus une obligation, je pense, dans la vie que d'être avec une seule et unique personne, faire l'amour toute sa vie avec la seule et unique et même personne. On a compris qu'il y avait plein de formules possibles. Donc, ben, jusqu'ici, en tout cas, ça va quand même très bien. J'ai pas de mauvais commentaires, les gens sont réceptifs à tout ça. Puis, fait que t'as écouté ça hier, toi?
Oui.
Ah!
Je suis un collaborateur curieux.
Des fois, j'oublie qu'il y a plein de gens qui écoutent toutes sortes de podcasts. Hey, il y a certains podcasts dans lesquels je me suis livrée, là. Ah oui.
Ben oui. Mais c'est,
ouais. c'est ça. C'est fait pour ça. Fait que écoutez-les, c'est certain.
Les gens nous écoutent parce qu'on est authentiques, on s'oublie pas, là.
Oui, c'est ça, exact. Ouais.
Y a-t-il une limite à l'ouverture?
Non.
Non?
Non,
ah, non, non. On a posé la question dans le sondage.
Oui. Ben, une limite à l'ouverture dans ce couple. OK, je pensais d'en parler, tu sais, moi. Il y a personne qui sait exactement ce qui se passe dans ma vie privée. Mais entre deux personnes, au niveau de l'ouverture, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de limite tant que les limites sont respectées.
La limite est la confiance, peut-être?
Oui.
Peut-être, peut-être, mais c'est un sujet intime. Donc, inévitablement, ça va rencontrer toutes sortes d'attentes, parfois des blessures, des choses non dites. Puis c'est rare que les gens ont une parfaite connaissance de leur propre intimité.
Oui.
Fait qu'il est encore plus difficile de le communiquer.
Oui, effectivement. Moi, je connais pas mes limites.
Non, c'est ça. Hein?
Je vais la connaître quand tu vas sentir que tu as franchi peut-être. Là, tu vas te dire, what?
Ouais,
que là, je suis plus sur le fil de fer.
Ouais.
Donc, sur une échelle de 1 à 5, tu aurais mis 7 au niveau de l'ouverture. Toi.
Ah, 10!
10! C'est la zone de danger, ça, 10. Hein.
Moi, je suis en pleine crise de quarantaine. Je vais tout essayer, au moins une fois. Au pire, on leur fait pas, tu sais. Mais, ouais, non, je suis vraiment curieuse.
Audacieuse.
Je veux vraiment tout essayer. Tu sais, tantôt, j'ai vécu quelque chose, là, avec Captain Kink aussi, là. Je suis allée chercher mes cordes parce que je veux commencer à attacher, faire du shibari avec certaines femmes. Oh. Peut-être Camille un jour.
Peut-être.
On va peut-être en parler.
Je suis pas
la place des kinks, tu sais,
oui.
des tics dans la psychologie, peut-être, oui. Tu sais, des attirances sexuelles. C'est pas forcément un trouble, mais ça peut devenir un trouble.
Je pense que oui.
Oui.
Puis moi, c'est beaucoup artistique et sensuel, plus que érotique et sexuel.
Ah ah!
Oui.
Ben, d'où l'importance, justement, dans ce qu'on appelle la paraphilie en psychologie, là, des comportements un peu à côté des comportements érotiques habituels.
Oui.
Donc, il y en a qui vont avoir des comportements à côté de la
limite.
Norme, mais qui ne sont pas un trouble en lui-même.
OK. On pourrait en parler de ça, ouais. Ça m'intéresse beaucoup.
On les appelle comment? Les perversions ou les déviances?
Ben ça, c'est des vieux termes de la vieille psychologie.
OK.
Aujourd'hui, on parlerait davantage de troubles paraphiliques.
OK.
La paraphilie, OK.
Puis, il y a des gens qui ont des... On peut dire qu'il y en a différentes formes de catégories, mais je vais vous attarder ici avec le point sur la douleur. Parce qu'il y a une sorte de trouble lié à la gestion de la douleur.
Oui,
faut en parler. Sadique sexuel et masochiste sexuel. Veux-tu savoir c'est quoi le pourcentage dans la population?
Oui.
Mais les gens qui sont masochistes sexuels...
Ça, on l'a-tu demandé? Attends,
non, c'était pas
non.
Dans le sondage.
OK.
dans les autres feuilles de préparation.
Ils ont répondu à ça. Je suis comme, on l'a-tu demandé? Oui, mais... c'est intéressant. Moi, je veux savoir la personne qui donne la douleur et qui reçoit.
Oui, la personne qui donne la douleur, le pourcentage, il serait assez incertain. Là. Mais quand on évalue... je parlais du masochiste, celui qui le reçoit. Le sadiste, oui. C'est celui qui le donne. OK, ben, je vais commencer avec celui-là. Ceux qui sont sadiques sexuels, ça varie beaucoup dans la population. Mais dans les expertises psycho-légales, il y aurait à peu près 10 % de gens là, qui ont ça. Et le taux monte en flèche chez les meurtriers en série.
Oui.
Les gens qui sont allés en prison, la prévalence, ça sera à peu près entre 37 % et 75 %. Donc, chez ces gens-là qui ont commis des crimes, c'est un noyau assez restreint de la population. Là. Mais il y aurait beaucoup plus de sadisme sexuel élevé chez eux. Mais ça ne veut pas dire que dans la population en général, il y a ce chiffre-là. Mais d'une certaine forme de jouissance à faire mal, sous la forme de fessée, sous la forme de strangulation, sous la forme de morsure...
Stimulation de...
Ouais, ça, il y aurait à peu près un 10 % de la population qui pourrait l'expérimenter de temps à autre. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tous les critères pour faire le trouble. Est-ce que ça te surprend, ça, 10 %?
Plus ou moins.
Oui, même que, bien, en fait,
dans l'initiation, que ce soit les plus initiés que les débutants en BDSM, je crois que culturellement parlant, dans des sociétés développées, on va le dire de même, là, c'est quelque chose qui va être... encourager à essayer au moins une fois, tu sais, même dans les jouets sexuels, c'est là c'est, on en parle tout le temps là, avec Planetix, là, les fouets, les cravaches, c'est un peu encouragé.
Ben, c'est pour ça qu'avant 2013, ça ne fait pas si loin, là, il y a 10 ans, là, avant 2013, les anciennes classifications diagnostiques, ils associaient tout ça à des troubles.
OK.
Mais aujourd'hui, depuis 10 ans, les diagnostics font la différence entre une paraphilie et un trouble paraphilique. Donc, il y a des gens qui sont, par exemple, dans des pratiques sadomasochistes qui n'ont pas de trouble.
Ouais. Mais ils ont des traits.
Ça se peut, c'est ça, exactement.
Puis qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir envie de donner ou de recevoir de la douleur?
Ben, c'est pas exactement clair où sera la limite de la frontière là, entre le moment où ça devient un trouble et le moment où ça ne l'est pas. Mais il y aurait comme deux grands critères. Il y aurait le fait un peu de morceler l'autre personne puis de la voir comme étant un objet ou de focusser sur juste une partie. Et il y aurait aussi des conséquences négatives sur soi, donc la détresse en faisant sa propre pratique et faire mal aussi à quelqu'un d'autre contre son consentement. Ça ferait partie d'une problématique pathologique également.
OK. De prendre plaisir à ça, en fait.
Exact, c'est ça. C'est là où on voit que le sadisme sort du côté sous la forme de jeu avec la douleur puis rentre dans un aspect pathologique où c'est plus un instinct prédateur, on pourrait dire, qui apparaît. Là.
Fait oui. Pour revenir au langage, quand on a parlé au début, eux autres sont vraiment dans le toucher. Il faut que ce soit dans de la violence.
Pas forcément. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils font mal, qu'ils aiment le toucher, puis que ça les touche particulièrement intérieurement, puis affectivement.
OK.
Même qu'on pourrait dire que plus on va entrer dans une caractéristique pathologique de la sexualité... Là, plus ça va avoir tendance à être ce qu'on appelle préférentiel et exclusif. Comme par exemple, une personne qui ne pourrait pas avoir d'orgasme et d'excitation en dehors de l'affaire le spécifique. Là.
Oui, okay. Mais j'ai connu quelqu'un qui n'arrivait pas à avoir d'érection et même déjà... Bref, il n'arrivait pas à avoir de plaisir tant qu'il n'était pas en simulation de viol, disons. Là.
Ouais,
tant qu'il n'était pas en situation de pouvoir total, de violence et tout... Ça, je trouve ça... Même c'est si ça peut être un... Mettons qu'on se dit que c'est un jeu, puis que, OK, parfait, je suis ta soumise pour le moment. Ça, c'est aucunement excitant. Mais en tout cas, je sais pas, là, mais il y a... Tu sais, je veux dire...
Ben, c'est ça, le caractère préférentiel et exclusif.
C'est ça.
Puis s'il l'a pas, ça crée de la douleur ou de la souffrance émotionnelle ou un désintérêt total. Fait que c'est là où... Si la personne a un partenaire viable, une personne qui accepte ou qui partage ce genre de fantasme-là, c'est formidable. mais la restriction de la source de plaisir n'est plus spontanée du tout. Là.
Non.
Puis, c'est un peu comme les personnes qui vont toujours avoir la même manière de se masturber. C'est rare que les gens vont varier ensuite. Hein. Ils,
oui.
ils explorent toujours la même manière, puis ça va bien, puis c'est comme concret, je me connais, puis tout, ça l'aboutit. Bon, ben, on pourrait dire que c'est comme si c'est une forme de pratique masturbatoire qui devient encore plus restreinte. Donc, ça prend plein de conditions super stimulantes pour avoir une excitation qu'on pourrait qualifier de, en guillemets, normale dans le sens de la société générale.
Oui. Puis, quelqu'un qui aime être en position de soumise, par exemple.
Oui.
Est-ce que...
En connais-tu?
À quel moment... Ben, je vois, moi, j'aime... Tu sais, je veux dire, j'aime ça, par exemple, pratiquer le shibari, être ouais. complètement immobile. Plusieurs choses font que j'aime ça. En fait, c'est la sensation de la corde sur ma peau.
Oui.
Ça me crée une certaine forme de frisson. Mm-hmm. Ça, je peux pas expliquer. Là, ça, un peu la douleur, puis toute l'endorphine qui est sécrétée par la suite.
Exact.
Puis aussi la position de, tu sais, je m'abandonne complètement. Là, je suis à la merci de l'autre personne.
Mais ça rejoint ça, un fantasme extrêmement commun qui est probablement associé à la biologie féminine. C'est le fantasme de se faire prendre en charge,
ouais.
puis de se faire gérer, puis de savoir un homme fort qui gère.
Sauf les gros bras réconfortants, tu sais.
Quand on examine, je me souviens des études qui avaient été faites à mon université, à l'UQTR, sur les fantasmes féminins, bien, les femmes arrivaient très facilement à faire la différence entre le fantasme, mais ils ne voulaient pas forcément le faire. Puis c'est pour ça qu'on voit la présence, par exemple, du fantasme de viol.
Oui.
Ça peut être un fantasme très fréquent, mais personne veut subir
personne
un viol.
Personne qui veut le vivre pour vrai, ben non. Exact.
Mais le fantasme, oui. Parce que le fantasme, c'est comme... C'est moi qui contrôle toutes les nuances érotiques. Puis sous certaines formes de soumission, BDSM, ben c'est une sorte de recréation de ce thrill-là. C'est qu'on va jouer avec la limite. On va jouer également avec, la douleur sur la force de la corde. Puis...
Oui.
Puis, moi, je m'en fais parler fréquemment par des gens en consultation. Là, puis, le rapport au plaisir et à la douleur, c'est quelque chose de très.
Ou même se faire choquer.
Ben,
il y a beaucoup de femmes. Une fois, on mangeait avec moi et mes amis. Puis, Macho m'a dit, tu sais, moi, j'aime ça, me faire choquer. Mais comment t'expliques ça aux gars? Tu sais, parce que c'est pas tous les hommes non plus qui sont à l'aise avec
ben
ça. Tu sais, il y en a qui sont absolument pas capables. Puis, j'ai remarqué, OK, que les hommes très en contrôle de pouvoir dans la vie. Sont souvent plus doux au lit.
Ouais.
Et l'inverse, les hommes doux dans la vie sont souvent plus dominants.
C'est une manière de rechercher le pouvoir puis la vulnérabilité. C'est dur d'intégrer les deux ensemble. Mais quand la vulnérabilité et le pouvoir s'intègrent dans la même personne, là, c'est comme une zone qu'on appellerait la zone formidable magique. Et s'il n'y a aucun des deux, on appellerait ça la zone d'indifférence.
Okay.
Mais s'il y a juste de l'animalité du pouvoir sans intelligence et vulnérabilité, ça, c'est une zone d'abus très dangereuse.
Oui, c'est toxique.
Il y a beaucoup de gens qui vont dépasser les limites. Hein. J'ai des clients dans la communauté BDSM qui me racontent qu'il y a certaines personnes dans la communauté qui n'acceptent pas les limites qui se font mettre par les autres. Puis quand ils se font mettre une limite qu'eux n'acceptent pas, ils deviennent encore plus dominants pour essayer de rester dans le rôle, alors que tout le monde leur dit « Non, 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 on ne veut plus que ce soit toi le dominant ici. » Oui, vous allez m'écouter. C'est là que ça devient de la prédation puis de l'abus.
Aïe, aïe, aïe. C'est tellement important de déterminer les limites avec votre partenaire de jeu, votre partenaire sexuel, là, avant d'entreprendre la démarche. Et ne changez pas votre limite durant.
C'est le fun de jouer avec des gens qui ne sont, sont pas des mauvais perdants. Là. Dans le sens justement de « là, moi, je ne joue plus, là, si ce n'est pas selon mes règles. »
C'est les blessures et les insécurités qui ressortent.
Oui.
C'est comme si.
C'est un système d'autodéfense.
C'est comme de vouloir penser que, OK, on va essayer le polyamour, mais là, ne tombe pas amoureux de l'autre personne. Là. Même si tu dis, oui, oui, d'accord, je ne tombe. Non, on ne contrôle pas ce qu'on ressent.
Mais non, puis les gens mélangent polyamour, libertinage. On a fait un épisode là-dessus, justement. C'est tellement pas la même chose. Puis il y a des polyamoureux vraiment qui cherchent d'autres relations amoureuses. Puis il y en a d'autres que c'est vraiment que des pratiques libertines, tu sais.
C'est ça, mais c'est jouer quand même avec un risque que certaines personnes n'ont ni la compétence de gérer ce niveau de d'émotivité-là, ni non plus la maturité pour tolérer toutes les choses qui vont vivre à l'intérieur d'eux. Donc, c'est un comportement, on pourrait dire, d'hyper-ouverture qui ne comporte pas que du beau. Oui, il y a du beau, mais d'une manière réaliste, pas que du beau.
Mm-hmm.
Donc, moi, c'est dans cet esprit-là que je regarde comme psychologue comment les gens vont avoir un rapport à leur pratique sexuelle. Parce que je n'appliquerai pas un jugement sur les pratiques des gens, peu importe la nature, même s'ils sont asexuels. Mais j'essaie d'examiner plutôt, est-ce que leur comportement est en accord avec leurs valeurs? Puis est-ce qu'ils savent reconnaître à la fois leurs besoins, leurs désirs, puis leur... ils sont-ils capables de communiquer leurs limites?
Oui.
Beaucoup de gens ne savent pas communiquer leurs limites. Puis là, c'est après coup qu'ils disent, ben finalement, je réalise que je voulais pas. Ben
oui, mais... Oui, il y en a qui se privent parce qu'ils ne sont pas capables de communiquer leurs désirs, leurs besoins.
Aussi.
Mais il y a tellement de couples qui vivent des fantasmes dans leur jardin secret, finalement, qui gardent pour eux, qui finalement en parleraient avec leur conjoint, leur conjointe, et réaliseraient qu'ils ont le même fantasme.
Oui.
Mais de peur de jugement, bien...
Mais les gens ont peur souvent des conséquences. Ils ont peur de perdre l'autre.
Ouais,
ils ont peur de faire de la peine à l'autre. Puis ça, c'est relié au mécanisme qu'on appelle la diffusion de la responsabilité. C'est que les uns les autres, on fait comme se diluer l'un dans les autres là, pour être tous d'accord. Puis, comme tu vois, on n'administre pas le temps de parole présentement avec une attribution, avec « c'est à toi de parler » ou tout ça. On fait comme se contaminer les uns les autres avec le climat de la pièce puis le vibe. Bon, ben c'est comme ça aussi sur le plan sexuel, érotique. C'est pas tout le monde qui a une bonne complicité.
Hey, mais ça, c'est vrai. Hein? Puis c'est pas parce que vous avez une aventure avec quelqu'un, une relation avec quelqu'un et que ça n'a pas bien été... que la personne ou vous-même, vous êtes poche, là, tu sais, il y a une chimie qui doit se créer entre, entre tous les deux, finalement. Entre les deux. Entre les deux. Mais parce que des fois, tu sais, on voit ça, là, tu sais, c'était vraiment poche, j'étais vraiment pas bonne au lit. Excusez-moi, pas bonne avec toi, tu sais.
Ben, pas bonne avec toi, puis t'es-tu...
T'étais-tu
dans...
à l'écoute? T'étais-tu
ouais, t'étais à l'écoute de... en première partie? Dans votre sondage, vous aviez la question, es-tu capable d'en parler? Es-tu satisfait, toi, de ta vie
d'ailleurs,
sexuelle? Es-tu capable d'ouvrir la porte à ça?
On irait à la pause et au retour, on va justement faire le tour de toutes les questions et des réponses données par nos 162 répondants quand même.
Oui, il y a eu à peu près 1000 personnes qui ont commencé à le répondre au sondage, mais moi, j'avais exigé que les 5 premières réponses soient répondues. C'est pour ça qu'on a perdu en cours de route.
Ah.
C'est quand même beaucoup de réponses. Ouais.
La sexploratrice avec Mel Trudel et Camille. Radio X.
De retour avec Dr Paul Simard et Camille, la pêcheresse.
Psychologue.
Mais
pas,
Paul
pas la
Simard,
pêcheresse.
Psychologue.
Moi, je suis autodidacte, des fois, c'est barre.
Oui, c'est ça.
C'est moi qui vais me faire taper ses doigts si on dit pas psychologue.
Oui. Dr Paul Simard, psychologue, est avec nous. On va répondre au sondage qu'on a publié dans nos deux réseaux. Dans nos différents réseaux, finalement. Des réponses qui m'ont quand même surprise, je dois l'avouer. Notamment, comment évaluez-vous votre satisfaction, la satisfaction de votre vie sexuelle?
Si vous voulez participer pendant qu'on en parle, 88-670-9098, on était de 0 à 5, hein, tout le temps.
Oui, 0 à 5.
De 1 à 5.
1 à 5, 5 étant très satisfait, finalement. Donc, oui, vous pouvez répondre 670-9098. 418-670-9098.
Yes.
Ou en live sur TikTok, la sexploratrice. Donc, comment évaluez-vous la satisfaction de votre vie sexuelle?
Bien, la réponse principale, c'est 4 sur 5. Mais quand on regarde la moyenne, c'est pas loin de 3. Parce qu'il y a quand même une grande distribution des réponses.
Oui.
Ça veut dire qu'il y a certaines personnes, on va dire 12 % qui ont dit qu'ils étaient aucunement satisfaits de leur vie sexuelle. Puis il y a 11 % qui ont répondu qu'ils étaient parfaitement.
On parle de 162 répondants.
Oui.
Donc, il y a quand même il y a quand même 35 % des gens qui étaient satisfaits.
Ouais,
très satisfaits quand même.
Satisfaits à 4 sur 5, c'est quand même très, très bon.
Ben oui,
c'est bon.
Ben oui.
On est pas loin de la perfection.
Mais quand on regarde la tendance moyenne, ça glisse un peu vers 3. Là. Fait qu'on voit que c'est pas franc. Là. C'est mitigé là, comme réflexion. Mais ça tend à être satisfaisant de manière générale.
Docteur Simard, en étant psychologue, pas nécessairement sexologue, bien que c'est un volet que vous voyez, là, les psychologues dans vos... Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui te consultent pour ça? Pour justement des questionnements par rapport à leur vie sexuelle? Puis,
Oui, parce qu'il y a des gens qui sont à la fois qui ont des blocages émotionnels ou qui veulent tout court aborder le thème de leur vie sexuelle. Il y a parfois des couples en thérapie également. Je reçois beaucoup de couples qui disent « On peut-tu aborder ce sujet-là en thérapie de couple? » Je dis « Bien sûr. » Puis tout comme mes collègues sexologues ne parle pas toujours de sexualité en consultation, bien, le psychologue ne fait pas juste parler des émotions ou des pensées ou des comportements. On entre dans toutes les sphères de la personne.
Oui.
Mais si on porte la compétence pour ça, là, moi, ça fait partie de mon champ d'expertise.
C'est ça.
OK.
C'est pour ça un peu que je trouvais ça le fun de t'avoir, parce que tu as ce champ d'expertise-là, mais aussi tout le volet psychique qui l'englobe. Il y a quelqu'un qui dit « Je ne veux pas gâcher votre fun, mais est-ce que c'est possible d'être satisfait à 100 %? » Bien, certainement. Je suis satisfaite à 100 % même si... j'ai pas personne dans ma vie puis que je fais pas l'amour à tous les jours.
Je pense
que tu peux avoir une vie sexuelle satisfaisante quand même?
Dans un sondage, il va toujours avoir une petite marge d'erreur avec un plus ou moins 2-3 %. Fait que tu peux être heureux à 100 %, plus ou moins 2-3 % tout dépendant une journée si ça te tentait un peu moins de faire l'amour puis tu l'as fait quand même.
Ben, la réponse du psychologue, ça serait « Je crois qu'on peut parfois être satisfait à 100 % de manière temporaire. »
Oui.
Parce que tout comme n'importe quel autre besoin, si vous buvez de l'eau puis que vous êtes satisfait de votre gorgée d'eau, c'est pas l'échec de cette satisfaction-là si vous rebuvez de l'eau. Donc, si vous redormez ce soir, c'est pas l'échec de votre nuit d'hier. Mm. Donc, c'est la même chose avec la satisfaction d'un besoin, d'un désir sexuel. On va essayer de la renouveler, puis vos besoins, vos désirs vont changer en cours de route.
C'est pas une constance.
Exact.
Mais là, on parle de notre vie sexuelle en général.
Ouais, c'est vrai, en général.
Mais en général, à 100 %, ben, tu vas avoir une moyenne que tu vas avoir plusieurs 100 %.
Mais c'est une interprétation intuitive que les gens font de la question. Ce n'est pas une photo rayon X exact, parce que c'est des choses qui changent. La satisfaction, ça fluctue en fonction de l'humeur.
Mm-hmm. Oui. OK, la deuxième question. Comment évaluez-vous votre ouverture aux différentes pratiques sexuelles? Camille, tu dirais quoi de 1 à 5?
5, moi. Moi, j'ai répondu 5. Oui.
Hey, maudit!
Vous, Dr. Smart?
Moi, j'aurais répondu, mon ouverture, j'aurais dit 4. Moi, 3, entre 4 et 3.
Ah oui?
Ouais.
Il y en a beaucoup que ça fait peur, la prostate.
Ça a été un sujet hier à table.
Aucun
homme, mis à part celui qui était assis à côté de moi.
Oui.
Il l'avait déjà découvert parce qu'il est homosexuel.
On a parlé avec Planète X mercredi, la prostate.
Mais messieurs, vous avez un problème, là. Vous associez ça à l'homosexualité alors que ça l'est tellement pas. C'est l'équivalent du point G chez la femme.
Mais ça, c'est un des problèmes. Ça. Quand les hommes ont des préférences, vous dites... Ah, mais là, il y a un blocage!
Non. Moi, je veux dire, de parce qu'on m'a dit, voyons, je ne suis pas gay, bien, ça n'a rien à voir.
Non, ça n'a rien à voir.
C'est pas parce que tu vas stimuler ton point P que tu es gay, là.
Non, c'est vrai, ça n'a pas de lien.
Aucun lien. C'est un point qui existe, qui est dans ton corps, qui peut t'apporter une jouissance extrême.
Bien, tu vois, moi, c'est pas ça que j'entends dans mon cabinet. Hein? J'entends des hommes qui ne naissaient pas ce genre de pratique-là parce qu'ils ont une aversion envers l'orifice de l'anus en lui-même.
Est-ce que c'est des hommes qui aimeraient faire la sodomie chez leur conjointe?
Non. Ça pourrait, par exemple, être juste des gens que ça les dégoûte.
Ah, OK.
Ou des gens qui n'associent aucunement d'éléments érotiques avec l'anus.
Avec l'anus, je comprends. Ça, je comprends.
Ils ont un dégoût avec... Ouais, mais d'un coup, qu'il y a un reste de caca. Ou de...
Oui.
Puis là, il y aurait le goût de vomir. Ou de...
Oui.
Fait que si c'est quelque chose qui est à l'intérieur d'eux, ils n'ont pas conscientisé le lavement... La préparation.
Ah oui,
c'est qu'eux, ils vivent une sexualité qui sont juste extérieures de
c'est
eux.
Ça.
Là.
Mais ça, je respecte ça totalement. Là. Ben oui. Puis, tu sais, chacun ses préférences. Puis, mais c'est juste que les quelques personnes que je connais qui l'ont découvert, mon Dieu Seigneur, c'est incroyable. Là, on a quelqu'un ici qui dit, bon, lui, c'est ça, là, les gens répondent là, en ligne.
5 pour l'ouverture de la prostate, quand même. Non, mais moi, je souligne ça. Hey, écoutez, c'est pas pour rien qu'on a eu des bons sondages. J'en parle souvent. Mais
laissez la prostate des hommes tranquille.
Ça a été un gros sujet mercredi.
On va arrêter d'en parler.
Il y en a qui sont un peu plus tabous, mais de l'ouverture en général, ça donnait combien sur 100?
Moi, j'étais à 10.
Oh, mais le chiffre, en fait, que le résultat du sondage, c'est...
4.
Généralement 4, mais ça tire vers la tendance quasiment, tu sais, 3,65 en réalité. La moyenne.
Je serais curieuse sur TikTok, ça dit quoi? De 1 à 5 pour l'ouverture des pratiques sexuelles.
Très ouvert ou très fermé, les gens tendent vers l'ouverture de manière générale.
OK.
Ils ne sont pas 100 % ouverts, mais ils sont pas mal à mi-chemin, je vous dirais, entre une grande ouverture et neutre. Fait qu'il y a une curiosité qu'on pourrait dire qui est présente chez les gens.
Oui. Mais de plus en plus, puis on le voit, là, moi je le vois depuis la pandémie, que ce soit par rapport au club libertin, que ce soit par rapport aux jouets, les différentes pratiques... Même le shibari, là, je sais pas, mais on en entend de plus en plus parler, non?
Surtout ici.
Oui! On est deux porte-paroles différentes, toi et moi. On a nos causes à cœur. Ah.
Mais là, même s'il y a des gens qui sont intéressés à l'ouverture et qui sont curieux, sont-ils capables de l'exprimer? C'est ça la prochaine question.
Prochaine question.
La communication.
Êtes-vous à l'aise de communiquer vos préférences sexuelles à votre partenaire?
Eh bien, la moyenne, c'est 3,78. Donc, ça glisse quasiment à 4 sur 5 de 10 ans. Puis moi, ça m'a beaucoup surpris,
moi aussi.
Ce sujet-là.
Hey, on a quand même un 30 % qui est 5.
Ben oui, oui, oui. Moi, ça m'a vraiment surpris parce que aborder le sujet des fantasmes, des désirs, des tentations, parfois, c'est un peu interdit ou c'est comme tabou.
Mais est-ce que ça se pourrait que ce soit en lien avec la communauté dans laquelle on l'a partagé, c'est-à-dire ma communauté, mes pages,
je pense
communauté.
Pas.
Non, c'est. Non.
Parce que ma communauté, moi, au sens large.
Et pas une communauté.
Pas dédiée spécifiquement à l'ouverture. Puis les chiffres n'ont pas vraiment. On va dire, la distribution de la courbe n'a pas vraiment changé quand on le joint également à ta communauté. Mm-hmm. Ça a juste fait augmenter le volume dans les réponses.
Okay.
Mais essentiellement, les gens semblent très à l'aise à le
communiquer. Oui, c'est le fun.
C'est le fun. Puis moi, je me suis questionné, je me suis dit, le monde, sont-ils vraiment conscients de ce qu'ils font, là? J'étais comme un peu sceptique. Parce que tout ce qui touche les sujets tabous, les sujets sensibles, les sujets intimes, naturellement, ça rencontre une certaine forme d'obstacle, de résistance. Mais le fait que les gens répondent ça, ça se peut que ce soit moi qui n'ai pas la bonne vision des choses, mais ça témoigne peut-être aussi de l'enthousiasme que les gens avaient à la réponse précédente envers l'ouverture, là.
Aussi, oui. Puis, est-ce que on ne développe pas non plus dans la question dans vous êtes à l'aise d'en parler, mais avez-vous la bonne façon aussi d'en parler pour avoir des conditions gagnantes? Ouais. Ben, ça aussi, là.
C'est peut-être dans la manière que j'ai construit la question qu'on a perdu des personnes également. Parce que j'ai construit l'échelle de répondre de 1 à pas du tout à l'aise, changeons de sujet. Jusqu'à 5, parfaitement à l'aise, le tabou n'existe pas.
C'est de quelques-uns qui ont fait « Non, non, ben c'est barré, c'est ça! »
Fait que ça se peut qu'on ait perdu des gens ici quand j'ai proposé l'idée de « changeons de sujet ». Puis là, que artificiellement, ça gonfle les résultats du sondage vers...
Ouais.
Parce que là, on a gardé les gens qui sont intéressés envers le thème sexuel.
Oui.
Puis on a gardé aussi les gens qui sont très enthousiastes face à l'idée de ça. Okay.
Mais le titre, c'était ça. Oui. Hein, un sondage en lien avec... la sexualité.
Exact.
Comment réagiriez-vous si votre partenaire vous proposait de nouvelles formes d'expériences sexuelles?
Ooh.
De 1 à 5?
Ah, moi, c'est 5.
Toi, c'est 5, hein?
Moi, ça m'allume. L'initiative, le côté audacieux, puis la curiosité, ben oui,
ça m'allume bien. Tu dirais non à quoi, mettons?
À quoi? Je sais pas. Vite comme ça, je le sais pas.
Mettons un tabou, là, tu sais, il dirait...
Scatophilie.
Je voudrais introduire ta sœur.
Oh!
Serais-tu d'accord?
Ouais, non. Ça
vient tout d'un coup de perdre en enchantant. Hein?
Les affaires de famille ou les trop grands écarts d'âge. Ouais, ça là-dessus, là, justement, quand tu as l'impression qu'il y a des écarts générationnels un peu, moi, ça me fait trop penser à relier à un trouble comme de daddy issue.
Ouais, c'est ça. Et si la personne disait, j'aimerais qu'on introduise mon ex, accepterais-tu ça? Parce que j'ai encore un peu de tirance en vent. Là, finalement, t'es pas 5, hein? Tu disais 5, mais non.
Ben.
Parce que. Là, ouais, moi, j'allais plus dans le côté de l'intimité. Qu'est-ce qu'on essaye de corporellement parlant?
Si tu es où le dilemme là-dedans, c'est de pas penser parce que c'est son ex qui va peut-être tomber en amour, au même titre que quelqu'un qui dit on va faire de l'échange puis ouvrir notre couple. Ça veut pas dire que tu vas tomber en amour avec la fille avec qui tu vas coucher.
C'est vrai.
Moi, c'était une de mes conditions quand j'étais en relation ouverte avec un homme que j'ai rencontré. On s'alignait pour être en couple ouvert. Puis la condition, c'était parfait, rencontre éphémère, pas de problème, mais pas vers les ex. Tu revois pas des ex. Moi, ça, c'était ma limite.
Oui.
Il est allé.
Bon, souvent, la limite hein, est facile et
ben,
fun à franchir.
Hein?
Hein?
C'est
ça. Elle saura pas.
Ouais.
Colin.
Tout finit par se savoir.
Il y a comme des époques, ça, de la vie où les gens, ils ont comme besoin de tester les limites puis sont insouciants. Puis c'est pour ça que la sagesse, on l'acquiert souvent sur le tard. Pas systématiquement.
Mais en fait, on l'acquiert quand on perd ce qu'on croyait acquis. Oui.
Mais tout comme il y a des jeunes sages, il y a des vieux cons.
J'adore.
Donc, quand on aborde des sujets sensibles, il y a des gens qui jamais ne vont tirer de leçons de leur apprentissage, de leur ouverture, de leur transgression. Puis il y en a d'autres qui vont tirer une leçon même avant même de l'avoir transgressée. Ils vont dire, moi, jamais je ne ferai ça. Parce que je comprends la souffrance qui va derrière ça. Puis ça rejoint un peu les concepts de la passion. Il faut l'essayer jusqu'à temps qu'on sait que ce n'est pas de l'amour.
Oui.
Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais.
Faudrait aborder le sujet de ce que tu as partagé aujourd'hui. I'm sorry.
C'est-à-dire?
L'amour et le couple.
Ouais, mais là, toi, tu me suis sur toutes les plateformes.
Ouais, là, c'est ça qui arrive, là, Colin. Il y a trop de bons sujets dont on pourrait parler. On va poursuivre avec
le sondage.
Oui, c'est ça. On va poursuivre avec le sondage, mais on y reviendra par la suite. À quelle fréquence éprouvez-vous un malaise émotif, la culpabilité, la honte, gêne, peur lors de vos pratiques sexuelles?
Entre 1, je n'ai jamais éprouvé de malaise, et 5, j'ai toujours très grand malaise dans les rapports sexuels. Puis là, les gens ont répondu à peu près 2 sur 5. Donc, c'est pas qu'ils n'ont jamais de malaise. Ils ont de temps en temps une certaine petite forme de malaise. Puis là, c'est là où le chiffre est le plus fort de tout le sondage. c'est 43 % de l'auditoire qui a répondu à 2 sur 5.
Beaucoup de gens qui se sentent vulnérables et insécures. Hein, dans
c'est exact. Ça, j'ai trouvé que c'était la réponse qui faisait le plus de sens, moi, personnellement. Ouais. Étant donné que c'est un malaise, c'est sensible, c'est délicat, les expériences passées de l'intimité, c'est pas toujours, pas toujours bien fait. Fait que les gens traînent à l'intérieur d'eux un petit doute.
Mm.
Puis tant mieux, j'ai goût de dire. Parce qu'il y a une différence entre être terrorisé par quelque chose puis être méfiant. Dire, attends un petit peu, je me laisserai pas rentrer dans mon intimité par n'importe qui. Puis là, c'est le mécanisme de filtre ici là, qui peut être perçu.
Puis là, on va y aller avec qu'est-ce qui distingue une sexualité saine d'une sexualité problématique?
Oui, c'était une question à développement. Puis là, j'ai reçu 142 réponses là, qu'il a fallu que je lise, que je compare, que je compile. Et puis, je vous ai sorti la crème de la crème en trois ingrédients.
Let's go!
Okay.
Les trois principaux ingrédients, selon les gens, qui différencieraient une sexualité saine d'une sexualité problématique, ce serait... En fond, c'est sain s'il y a un consentement mutuel et malsain s'il n'y a pas de consentement.
Mm.
S'il y a de la pression, oui, de la contrainte ou de l'abus, ça c'est malsain, ça, selon les gens. Le deuxième point, c'est sain s'il y a une communication ouverte. Si c'est dit, s'il y a de la curiosité, de la bienveillance. Mais c'est malsain si c'est une sexualité qui est basée sur l'abus, la transgression et les non-dits.
Mm.
Et le troisième point, c'est une sexualité saine si on respecte les choix mutuels de chacun dans nos préférences et nos limites. Puis c'est malsain s'il y a des transgressions de ce que l'autre a décidé ou ce que l'autre aimait, ou même des transgressions de nos propres décisions parce qu'il y a des gens qui s'auto-abusent, qui s'auto-sabotent. Donc, je trouve ça très intéressant. Oui. Consentement, communication, respect, ça semble être, oui, ce qui marque une sexualité saine.
Communication, l'écoute.
Moi, je trouve ça très bien.
Qu'est-ce qui explique l'ouverture ou la fermeture à l'exploration de nouveaux comportements sexuels?
Ah ça, la question de l'ouverture, on l'avait questionné
précédemment. J'ai une sous-question ensuite, moi.
Oui, bien, je vais répondre d'abord sur les trois, oui, principaux éléments. Même chose, j'ai eu 145 réponses que j'ai condensées, triées, puis je vous donne la crème de la crème. Ça serait, l'ouverture serait favorisée par la confiance en soi et en son partenaire, par des éléments de l'éducation et de vos croyances.
Okay.
Puis par des expériences personnelles passées. Ça serait, puis je pense que ça fait bien du sens,
oui,
vos expériences personnelles de l'ouverture. C'est tellement fragile à ce moment-là d'ouverture, c'est tellement vulnérable que suffit d'une petite critique, là, mettons une femme qui va dire au partenaire « Ah ouais, t'as déjà fini?
Hey. »
Le gars, lui, qui comprend que « Ok, je suis inadéquat et pas bon. » Puis là, plus jamais va oser se réouvrir sexuellement.
Je me suis toujours demandé si j'avais eu un partenaire comme ça, moi, qui s'était fait souvent faire le reproche ou le commentaire. Pour défaut, il était comme « Non, je voulais pas venir tout de suite. » Puis j'étais comme « Mais c'était pas grave, tu sais, moi, au contraire. » Pour moi, c'est comme « Oh, check, mission accomplie. » Je suis comme «
Mais oui, c'est ça! »
Tu sais, je suis heureuse ben quand, oui, ça arrive.
Parce qu'il y a des hommes, en plus, parfois, qui retiennent.
Ben oui.
Ça finit plus de finir. Puis là, au contraire, c'est trop long, puis ils viennent pas.
Ou des femmes qui vont s'excuser quand l'homme jouit rapidement. « Ah, oh, je m'excuse, c'est peut-être de ma faute, j'ai peut-être trop serré. » Donc, les gens, ils inventent des scénarios fantasmiques de culpabilité,
hey,
en lien
faut
avec,
pas, là.
Puis ils s'approprient les réactions physiologiques de l'autre. C'est comme dire « Je m'excuse quand l'autre éternue. »
Oui.
Ouais.
Il y en a qui s'excusent pour s'excuser, là, je travaille là-dessus.
Ben, c'est ça, la culpabilité, ouais, intérieure. Ça prend une place à l'intérieur de nous puis de nos comportements automatiques. Mais la sexualité, c'est tellement intime, c'est tellement fragile qu'on y retrouve tous ces mécanismes-là.
Oui. Et ma sous-question, c'était dans le milieu libertin, OK, tu sais, des gens qui ont besoin de partir toujours à la rencontre de nouvelles personnes. Est-ce que ça se pourrait que ce soit des personnes soit qui sont accros à l'oxytocine, à l'effet euphorisant que crée une nouvelle rencontre, là, le NRE, le New Relationship Energy, ou... Est-ce que c'est un besoin de plaire, de booster son égo? Est-ce que ça se pourrait, ça?
Pas forcément l'ocytocine qui sera en rôle là-dedans, selon moi. Parce que l'ocytocine, c'est l'hormone qui est reliée avec l'attachement.
OK.
Puis les liens de proximité, puis qui est particulièrement fort dans le toucher. C'est vrai qu'il y en a une partie, mais la multiplication des nouvelles rencontres, c'est souvent pour obtenir un rush de dopamine.
Ah!
C'est un peu le même genre d'effet qui fait qu'on est prisonnier de nos téléphones cellulaires puis qu'on regarde constamment les notifications puis qu'on, ouais, a l'impression qu'il vibre même s'il n'a pas vibré.
Ouais.
Donc, c'est la recherche de dopamine, c'est associé avec la stimulation.
OK.
Et des études qui ont été faites là, sur des. Ils évaluaient le taux de dopamine dans le cerveau des rats. Puis là, on présentait au rat mâle une femelle. Puis on évalue son taux de dopamine dans son cerveau qui monte super haut. Là. Puis là, il la couple. Une fois qu'il a joué, son taux de dopamine baisse. Mais si on représente la même femelle, son taux reste pas mal bas. Puis
mais une nouvelle?
On présente une nouvelle femelle rat, puis là, boum, sa dopamine remonte quasiment aussi haut.
Vous êtes toutes de même.
On est des animaux.
Oui!
En partie.
Mais c'est ça!
C'est vrai!
Mais c'est vrai, il y a une composante biologique à l'intérieur de nous que beaucoup de gens ignorent, mais c'est pas parce qu'ils l'ignorent qu'elle n'est pas en action. Puis là, je vous parlais du cerveau des rats. Je ne vous parlais pas du cerveau humain. Mm. Il est possible qu'il y ait des variantes dans les différentes formes de cerveau des différents animaux. Il ne faut pas prendre ça pour du cash. Il ne faut pas transposer 100 % des choses.
Mais c'est là qu'il ne faut pas s'en faire si, par exemple, tu es en couple monogame. Tout va. Parce que je le dis, là, c'est possible d'être avec une seule et unique personne toute sa vie, mais ça se peut qu'on fasse face à des situations comme ça où peux avoir un petit sentiment euphorisant envers quelqu'un d'autre. Sans nécessairement ne plus avoir d'amour pour ta conjointe ou ton conjoint.
Ouais. C'est ça.
C'est juste biologique, c'est physique, c'est normal. Mais les libertins, les couples ouverts, les polyamoureux, tout ça, l'ont compris, sont capables de dealer avec ça et sont à l'aise de le vivre et d'en discuter avec leur partenaire.
Moi, je dirais qu'ils ont installé un autre genre de gardien de sécurité plutôt que de mettre le gardien de sécurité de « t'es à moi, je suis tatoué, on discute plus de ça, on barre la porte ». Donc là, tout d'un coup, il y a un autre genre de règle de sécurité qui s'installe, un gardien qui vient dire « OK, attendez un instant, on pourrait faire de quoi, mais on va renégocier les règles. » Dans ma pratique, j'ai plusieurs patients qui ont installé plusieurs sortes de règles sur les formes d'ouverture, puis c'est pas parce qu'ils s'aiment pas. Là.
Mais non.
Mais si vous n'êtes pas rendu là, ne forcez pas l'ouverture.
Oh que non.
Parce que ça serait une forme d'auto-abus.
Oui, puis il ne faut pas non plus se lancer là-dedans si votre couple n'est pas déjà solide.
Exact.
C'est pas un pansement.
Exact.
Il ne faut pas le voir comme une sortie de secours et une aide à ce que le couple aille mieux. Au contraire, vous en allez dans le mur.
Ça se peut que la madame, elle chasse les rats. Là. Ça se peut que la madame, elle se transforme en chat. Là. Ça se peut qu'elle devienne une prédatrice puis la communication, on va pas réussir.
Est-ce que c'est ça, les cougars?
Oui! Oh, bon gars.
Hey, on y va-tu avec les définitions? La cougar, là?
Oui.
Bon, une MILF, c'est une maman, une...
Une mère que j'aime suivre sur les réseaux sociaux.
Oui, c'est façon polie de le dire.
I'd like to follow.
Ensuite, la cougar.
Oui.
Ça, c'est une femme de 50 ans et plus?
Généralement, ça serait ça. Ce serait une femme qui est rendue dans la période ménopause et qui s'intéresserait à des jeunes hommes.
OK, fait qu'elle a passé la ménopause.
Ben, il n'y a pas une définition homogène et universelle de ça. Là. Ce sont des néologismes de la culture populaire. C'est des nouveaux termes.
OK.
Mais cette exploratrice, c'est comme à la recherche d'une étiquette, on dirait. Hein?
Non, non.
Non?
Donc, là, moi, je suis célibertine.
Ah, OK.
Non, mais je ne suis pas disponible.
Il y a tellement de mots possibles et imaginaires. Puis j'aimerais ça te parler d'un thème particulier que beaucoup de gens ne connaissent pas qui s'appelle l'érotomanie.
Oh!
Ça sonne quelque chose, érotomanie.
On aime
érotomaniaque, ça. Érotomaniaque, délire. Donc, ça serait l'érotomanie, une sorte de trouble psychotique, un délire là, dans lequel la personne ne délire pas qu'elle est persécutée par d'autres personnes, mais à son contraire, elle délire qu'elle est aimée et excitée d'une autre personne. Pourtant, elle n'a aucun signe de ça là, de sa part là, de l'autre personne.
Elle s'imagine que quelqu'un la désire.
Exact.
Sans aucun signe précurseur.
C'est un délire d'être aimé ou désiré sur le plan sexuel.
Hein?
Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir quelques patients en thérapie qui souffraient de cette condition. C'est une véritable souffrance. Là. Comme par exemple d'écouter des émissions de télé et de dire en thérapie, là, la personne dans l'émission de télé cette semaine, elle a dit telle chose, puis là, elle faisait ça pour me passer un message parce que j'ai envoyé un courriel que j'ai trouvé à mon travail de cette personne-là, puis j'ai envoyé, puis là, même si j'ai pas le droit, c'est pour notre amour, parce que quand on s'est croisés en 2008 à telle place, il était là, puis il m'a regardé. Puis là, les gens délirent.
C'est un phénomène groupie, souvent avec des personnalités connues.
Ça peut glisser dans des phénomènes de groupie. Mais sauf que là, plutôt que d'être juste un dérapage de limites relationnelles, l'érotomanie, c'est un délire, on pourrait dire un bris de limite sur le contact avec la réalité.
Okay.
Il y a un excellent film, d'ailleurs, sur le sujet dans lequel une femme est érotomaniaque face à son psychologue. Puis elle va le persécuter, puis elle va faire des intrusions dans sa vie personnelle, puis elle va écrire des lettres comme quoi c'est lui qui l'aime, puis que c'est, elle n'a pas imaginé ça, c'est lui qui... Lui, il est dépassé par ça. Donc, je pense que c'est Délice ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus du nom du film. Mais si vous tapez érotomanie, vous allez trouver les.
J'avoue que je pensais pas que c'était ça, l'érotomanie. Là.
C'était quoi ta définition?
Mais je pensais pas que c'était si négatif, en fait.
Je pensais que ça se rapprochait de la nymphomanie.
Ouais, genre, non. Moi aussi.
Mais la nymphomanie, c'est également une forme de souffrance. Puis bien qu'il y ait des gens qui disent parfois, en voulant s'amuser avec ça, « Moi, je suis nymphomane! »
Puis il n'y a rien de drôle là-dedans.
J'ai également,
là,
dans ma pratique, plusieurs femmes qui se disent nymphomanes. Puis tout dépendant où ils sont rendus dans leur cheminement intérieur, il y en a qui vont s'amuser avec ça, qui vont même le rentabiliser en ayant cherché des avantages secondaires auprès de certains hommes en échange de leur sexualité. Il y en a qui vont entrer dans la prostitution parfois, mais à la base, la nymphomanie reste que c'est une pratique de la sexualisation ou de la sexualité qui est hors de contrôle. Puis il y a des gens qui vont se blesser, certaines femmes là, qui souffrent vraiment de nymphomanie. C'est pas plaisant. Là.
Une envie physique là, d'avoir besoin de...
Ils vont tellement se masturber souvent ou utiliser des jouets sexuels souvent qu'ils se blessent. Là.
Aïe, aïe.
Puis là, une fois qu'ils sont blessés, ils n'arrêtent pas d'avoir le désir, le goût d'œuf, et qu'ils se reblessent par-dessus.
Et ça doit faire mal.
Ouais. J'ai eu une amie, moi, qui souffrait de cette condition-là, une amie personnelle, puis elle me racontait que dans sa vie, c'était un véritable calvaire. Là. Parce que là, dans les transports en commun, elle se masturbait.
C'est malgré la douleur, il y a une envie physique de jouir qui est là.
Oui, c'est de l'excitation.
Aïe,
aïe, toujours effervescence, là, toujours proche, là, puis toujours... Là, puis là, la personne, elle peut dire, ben moi, c'est parce que j'aime la sexualité. Mais contrairement à une grande appétit sexuel, ce qui caractériserait la nymphomanie, c'est vraiment la présence de souffrance et la nature incontrôlable du désir. Donc, même si la personne a dit « OK, il faudrait que je me focus sur ce que j'ai à faire, pas capable de s'empêcher. »
Oh.
Donc, c'est une des formes, on pourrait dire, d'hypersexualisation. Mais l'hypersexualisation, en soi, c'est très vaste comme sujet. Là.
Est-ce que tu as déjà rencontré des hommes ou des femmes qui étaient, comment on appelle ça, le financier dominé?
Qui était dominatrice.
Dominant financier, c'est une forme de domination financière. C'est-à-dire que moi, j'ai une amie, là, sans faire de sexualité avec l'homme, sans échange sexuel, lui, ce qui l'excitait beaucoup...
Et de payer pour elle.
C'était de payer n'importe quoi pour elle. Ça peut être un legging à 10$. OK, t'es dans un magasin, OK, parfait. Achète un legging, je te vire l'argent.
Oui.
Tu vas aller au restaurant, parfait, je te vire l'argent.
Oh oui.
Ça l'excitait.
Je me demande sont où ces gens-là.
Qu'est-ce que...
Bon, tu glisses vers le côté idéalisation de la souffrance.
C'est, je me sentirais vraiment pas bien d'abuser de ça, mais...
Ben, c'est consentant, là, c'est ça l'affaire.
Oui, c'est ça qui est un peu fou. Qu'est-ce qui peut créer ça? C'est un besoin de plaire?
On va retrouver ici les prémices là, qui glissent vers la paraphilie. Là. C'est la nature un peu à côté de la norme de l'utilisation de l'érotisme. Puis ça pourrait retrouver, on pourrait dire, des similarités avec le fétichisme. Mm. C'est une forme d'expression du désir. Mais encore là, il y a tellement de variantes possibles avec juste les informations que tu me mentionnes. Hein.
Moi, je connais un homme qui s'est endetté. J'en connais deux, finalement, parce qu'il y a celui qui gâtait la femme que je connais et un autre avec qui j'ai tourné sur un plateau. Il me racontait. Il s'est endetté, là. C'était un besoin pour lui autant que d'aller jouer dans les machines.
Ça rejoint.
Il était dans les cadeaux aussi. Tu sais, quand on parlait des formes d'amour, là, lui, c'était les cadeaux, les récompenses, faire plaisir.
Ça pouvait très bien remplir, à quelque part, à l'intérieur de lui, le sentiment de satisfaction amoureux. Puis ça rejoint ta question sur la différence entre couple et amour. Puis même dans la littérature scientifique, souvent, là, ils mélangent les deux.
Mm.
Moi, j'ai parcouru la grosse brique sur toutes les études scientifiques du fondement de la psychologie du couple. Puis c'est un peu... de la bullshit dans le sens où ils ne parlent pas de la même affaire à chaque chapitre. Dans certains chapitres, ils vont dire que le couple, ils confondent ça avec l'amour. Dans d'autres fois, ils vont dire que le couple, c'est finalement, ils parlent du couple hétérosexuel, mais ça exclut le couple homosexuel ou les polyamoureux. Dans d'autres fois, ils parlent du sentiment de satisfaction en relation. Ils appellent ça être en couple, mais en fait, ils mesurent la satisfaction. Donc, c'est des choses bien différentes. Puis de manière courte, l'amour, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. C'est un sentiment. On peut être en amour avec quelqu'un qu'on n'est pas en statut relationnel conjugal extérieur. C'est merveilleux quand on est en amour avec quelqu'un avec qui on est en couple, quand l'intérieur et l'extérieur fit ensemble. Mais
les deux sont pas...
Ça se peut qu'ils ne soient pas forcément ensemble. Il y a des gens qui sont en couple avec des gens qui ne sont pas amoureux depuis longtemps, qu'ils n'aiment plus. Là.
Ouais.
Mais ils restent en couple quand même. Est-ce que c'est des mauvais couples ou c'est juste une sorte de couple qui ont transformé leur point d'alliance ensemble? Moi, je pense que ça peut faire des très bons couples quand même.
Il faut des complices de vie, ils créent des projets ensemble, tout ça. Il y a quelqu'un qui demande, c'est quand même intéressant, il nous reste pas beaucoup de temps, mais Les nymphomanes.
Oui.
Est-ce que c'est à longue de te consulter qu'on peut venir au bout de ça ou c'est physique et on doit inclure une forme de médication pour calmer peut-être?
Parce qu'il va falloir évaluer la place de ça dans le fonctionnement psychologique de la personne.
Okay.
On pourrait dire qu'il y a des gens qui vont résoudre leur dilemme avec la nymphomanie à force de faire un lien sur la place de la sexualité dans leur équilibre émotionnel et sexuel. Puis il y en a d'autres qui vont probablement passer par la médication, il y en a qui vont passer par le registre, on pourrait dire, des troubles de la personnalité. Il y a différentes formes d'utilisation de la sexualité dans les différents troubles. C'est un sujet vaste et complexe.
Mm-hmm.
Garde à l'esprit que ça prend une évaluation rigoureuse d'un professionnel de la santé qui est accrédité pour faire ça, pour pouvoir après appliquer un bon traitement. C'est pas juste une intervention, là, c'est un plan de traitement.
Ouais. Docteur Simard, un énorme merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Ça a été un pur plaisir et on va tenter de t'avoir avec nous encore plus souvent cet automne.
Maman Dieu, merci.
Camille, merci. Merci, merci. Toujours un plaisir de t'avoir à mes côtés.
Ben, merci à toi, la sexploratrice.
Merci. Et à tous les auditeurs et à tout le monde qui nous suit sur TikTok, à tout le monde qui nous a écrit aujourd'hui en live, on vous souhaite un magnifique week-end et à la semaine prochaine.
Sexplorez-vous.
Yes.